Vous êtes sur RTL.
Elle midi, Amandine Bégaud, Pascal Praud.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL midi, 12h30, 14h30, 2h d'infos, 2 débats, mais aussi d'opinions avec les auditeurs. L'info avec Amandine Bégaud tous les jours jusqu'à 13h. Bonjour Amandine.
Et bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une, Boris Johnson sur le départ. En France, le gouvernement présente son projet de loi pouvoir d'achat. Et puis attention aux fournitures scolaires. Certaines seraient dangereuses pour la santé de nos enfants.
Nos deux questions. La France est-elle en train de changer de climat? Il fait beau et chaud, notamment dans l'Ouest. Et à 12h50, RTL chez vous, votre rendez-vous sur le Tour de France avec Christophe Paco, 6e étape aujourd'hui, la plus longue de cette 109e édition. Le départ a été donné il y a un petit quart d'heure à Binche en Belgique. Nicolas Jargerot sera avec nous.
Et il est avec nous, Nicolas.
Nicolas.
Oui, avec effectivement, c'est parti très vite, c'est parti très fort. 220 km, 70 km en Belgique avant de revenir en France. Il y a du vent, beaucoup de vent aujourd'hui. Et il y a quelques instants, après 15 km parcourus, une accélération du maillot jaune. Wout Van Aert qui a scindé le peloton. Le peloton est en train de se reformer, mais déjà un petit peu la panique à bord. Beaucoup de rythme et d'intensité en ce début d'étape.
Et on va suivre tout ça avec vous tout au long de cet après-midi, bien sûr, des points toutes les demi-heures. Merci à vous. Nicolas, notre question du jour sur RTL.fr, pouvoir d'achat, partez-vous en vacances cet été? Vous dites non à 60%, oui à 35%. Notre météo avec vous, Peggy Broche. Bonjour Peggy.
Bonjour Amandine.
C'est quoi tous ces nuages au nord là?
C'est une zone humide qui est descendue sur le nord et qui nous apporte beaucoup de nuages, c'est vrai. Bon, en même temps, on a été mal habitués ces derniers jours, on a eu du soleil dès le matin. Ça ira mieux cet après-midi avec le retour d'éclaircies. Elles seront peut-être un peu plus timides sur les frontières du nord, mais ça va s'éclaircir quoi qu'il en soit. Ailleurs, c'est plein soleil, toujours une averse possible, voire un coup de tonnerre sur le relief des Alpes et de la Corse, et du vent dans le sud, le tout sous des températures stationnaires, de 20 à 23 près de la Manche, 25 à 30 ailleurs, jusqu'à 35 près de la Méditerranée.
Merci Peggy, à tout à l'heure.
RTL Midi.
Et d'abord donc ce coup de théâtre en Grande-Bretagne.
Boris Johnson will resign. Boris Johnson is going to resign.
Boris Johnson devrait quitter la tête du parti conservateur. Il doit prendre la parole dans les minutes ou peut-être les heures qui viennent et annoncer donc officiellement sa démission. Bonjour Marie Billon, vous êtes sur place pour RTL. Pourquoi maintenant ?
Eh bien parce que la pression politique devenait trop forte et trop concrète. Plus de 50 démissions se sont entassées sur son bureau en un peu plus de 24 heures. Même les ministres nommés pour remplacer les démissionnaires ont démissionné ces dernières heures. Même ses alliés les plus fidèles lui disaient que l'heure était venue de partir. Boris Johnson était littéralement isolé à Downing Street et puis à la tête de pas grand chose, puisque son gouvernement avait tellement d'absents, il avait perdu tellement de ministres que le Parlement, l'État ne pouvait plus fonctionner.
Il quitte donc la tête de son parti, mais il peut toutefois, Marie, rester Premier ministre.
Alors effectivement, il faut attendre sa déclaration, mais pour l'instant, il cède sa place à la tête du Parti conservateur, mais il s'accroche à Downing Street. Il dit qu'il veut rester Premier ministre jusqu'à ce qu'un nouveau chef du Parti conservateur, qui deviendra donc de fait Premier ministre, soit élu lors d'une élection interne. Et cette élection interne, eh bien, elle peut prendre beaucoup de temps. Ça voudrait dire peut-être rester en place à Downing Street jusqu'à cet automne. Et beaucoup trouvent ça inacceptable. Ils tentent encore de pousser Boris Johnson à laisser sa place de Premier ministre à un Premier ministre par intérim dès aujourd'hui.
Et Boris Johnson doit s'adresser aux Britanniques, donc peut-être dans les minutes qui viennent. Merci à vous Marie, on vous retrouvera bien sûr s'il prend la parole dans les prochaines minutes.
Ici en France, nouveau Conseil des ministres, le deuxième de la semaine.
Ouais, ce sera tout à l'heure à 16h, au menu le projet de loi pouvoir d'achat. Bonjour Martial Youx.
Bonjour.
Bruno Le Maire a déjà donné quelques pistes ce matin concernant le dispositif carburant.
Oui, on va éteindre progressivement la ristourne générale de 18 centimes accordée à tous les automobilistes. À la fin de l'été, donc, on pourrait passer de 18 à 12 centimes, puis de 12 à 6 centimes avant de tout arrêter au 1er janvier 2023. Mais alors à partir du 1er octobre, un dispositif plus ciblé concernera ceux qui ont des revenus plus modestes et qui sont obligés de prendre la voiture pour aller travailler. Donc ça va prendre le relais. On parle de ceux qui gagnent jusqu'à 1600 euros net par mois. Cette nouvelle mesure coûterait 2 milliards d'euros en tout à l'État selon Bruno Le Maire au lieu de 800 millions par mois actuellement pour la mesure générale et ça concernerait 11 millions de Français.
Et ça va être compliqué sans doute à mettre en place.
Oui, sans doute, parce qu'il va falloir contrôler les revenus, mais sans doute aussi la réalité de l'utilisation quotidienne de la voiture pour aller au travail, le nombre de kilomètres parcourus. Donc il va falloir sans doute faire un peu confiance aux déclarations des Français. C'est possible en recoupant des données fiscales avec des données d'assurance, mais on voit bien que ça ne va pas être simple.
Et est-ce qu'on en a vraiment besoin? Les prix, on l'a vu, commencent à baisser. Ce matin, j'ai vu le litre de sans-plomb 95 à moins de 2 euros.
Oui, et je regarde là juste en même temps que je vous parle, on est effectivement sur une tendance pour le pétrole à la baisse, puisqu'on est autour de 100 dollars le baril de Brent actuellement. On n'avait pas vu ça depuis longtemps. Et on a une petite tendance, c'est vrai, à la baisse à la pompe depuis quelques jours. On reste malgré tout globalement au-dessus des 2 euros pour tous les carburants. Et grâce, cette fois, à la ristourne de 18 centimes du gouvernement pour l'instant.
Martial Liu, chef du service économie de RTL. Ce matin, sur RTL, Marine Le Pen s'est dit prête à voter ce texte, ce projet de loi pouvoir d'achat, s'est dit-elle, nécessaire.
Je n'ai pas pour objectif de faire sauter les institutions. J'ai pour objectif de faciliter la vie des Français. C'est pour ça que nous avons été élus. Je veux que ce texte puisse être voté. Il sera très certainement imparfait, car ça n'est pas nous qui l'avons construit. Nous allons nous battre pour que les décisions qui soient prises et qui soient votées soient les meilleures pour les Français. Mais c'est urgent. Voter une motion de censure tout de suite, c'est reporter ce texte au mieux fin septembre. Est-ce que vous croyez que les Français ont le temps d'attendre ?
Marine Le Pen, invitée d'Alba Ventura sur RTL ce matin. Bonjour Marie Mollet.
Bonjour.
Le texte arrive cet après-midi, dès cet après-midi à l'Assemblée, en commission. Ça risque d'être houleux, agité.
Et oui, à partir de maintenant, la bagarre parlementaire commence à coups d'amendements, de négociations de couloirs et de rapports de force. Car cette loi, c'est un test grandeur nature de la méthode Borne, au-delà des mots et des bonnes intentions de son discours prononcé hier dans l'hémicycle. Pour l'instant, elle n'a fait aucun cadeau à l'opposition et on ne sait absolument rien de ce qu'elle est prête à lâcher pour obtenir les 60 voix qui lui manquent. Les oppositions, justement, vont tout faire pour montrer qu'elles pèsent lourd et qu'elles sont désormais incontournables, avec déjà des propositions. Le SMIC à 1500 euros ou la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires pour l'ANUP. Une baisse des taxes sur le prix des carburants pour LR. Une idée qui terrorise l'exécutif. Et si toutes les oppositions s'alliaient pour faire voter le blocage des prix de l'essence à 1,50 euros, ce serait la banqueroute s'étrangle déjà un conseiller.
Marie Mollet du service politique de RTL.
Les vacances scolaires, elles débutent officiellement ce soir.
Et pour beaucoup, c'est déjà le moment d'acheter les fournitures de rentrée. L'ANSES, l'agence de sécurité sanitaire, met en garde. Certaines seraient dangereuses pour la santé de nos enfants, Odile Pouget.
Oui, des phtalates dans des gommes, du formaldéhyde, un irritant bien connu dans des colles, des métaux lourds comme le chrome 6 dans les feutres et les marqueurs. Tous les articles scolaires sont concernés et pas une marque n'y échappe. Avec des effets en effet préoccupants sur la santé lorsque ces produits sont portés à la bouche, mâchouillés, inhalés ou tout simplement mis au contact de la peau. Les explications de Céline Dubois qui a coordonné cette expertise pour l'ANSES.
Vous pouvez avoir des effets tels que des allergies, des irritations, des effets long terme sur l'appareil respiratoire. Vous pouvez avoir des irritations oculaires. Ce sont des effets qui sont assez vastes sur la santé. Tout dépend de la substance qui a été identifiée.
Effectivement, c'est assez inquiétant. Comment est-ce qu'on sait ce qui est bon, ce qui n'est pas bon ? C'est pas écrit.
Non, c'est pas écrit sur les étiquettes. Les fournitures scolaires ne relevant pas de règles spécifiques qui s'appliquent par exemple aux jouets. Rien n'oblige les fabricants à mentionner la présence de telle ou telle substance. Ce que l'on peut faire en attendant une réglementation plus stricte, c'est de choisir des produits par exemple sans parfum, sans paillettes, pour éviter que l'enfant, attiré justement par ces artifices, ne renifle sa colle, sa gomme ou suce ses crayons.
Et ben voilà, rentrée sans paillettes, on aura compris la leçon. Merci à vous, Odile Pouget.
À Wimbledon, demi-finale dames aujourd'hui.
La numéro 2 mondiale, Ons Jabeur, affronte l'Allemande Tatiana Maria. Pourquoi on vous en parle ? Eh bien parce que cette Allemande de 34 ans a un parcours pour le moins atypique, Isabelle Langer.
Ah, c'est un peu un conte de fées pour Tatiana Maria. Imaginez un peu, il y a 15 mois, elle accouchait d'une petite Cécilia, sa deuxième fille après Charlotte, 8 ans. Jusque-là, en 34 grands chelems, l'Allemande n'avait jamais réussi à dépasser le troisième tour. Mais depuis qu'elle a repris du service, après sa grossesse, Tatiana Maria vit le tennis sans pression et ça fonctionne. À Bogota, en avril, elle a remporté le deuxième tournoi de sa carrière. Sa force, c'est sa famille. Elle voyage en permanence avec ses enfants. enfants et son mari, Charles-Édouard, un Alsacien qui est aussi son entraîneur. Cet après-midi, la marche est haute contre la numéro 2 mondiale, Hans Jaber, et le duel un peu spécial aussi.
Hans fait un peu partie de notre famille, elle adore mes enfants, elle joue au tennis tout le temps avec Charlotte, elle aime Sissi, ça va être super de jouer contre Hans. Et on ne sait jamais, vous savez, je suis déjà super heureuse d'être en demi-finale.
Mais quoi qu'il arrive aujourd'hui, nul doute que les deux joueuses, les deux amies, se retrouveront rapidement, car pour Hans Jaber, Tatiana Maria est avant tout une partenaire de barbecue.
Portrait signé Isabelle Langer. Teddy Riner, lui, sera de retour sur les tatamis ce week-end à Budapest, première étape de la préparation pour les JO de 2024. Et le Français, 10 fois champion du monde, on le rappelle, ne se compte pas s'arrêter là. RTL vous le révélait ce matin. Teddy Riner vise aussi les Jeux de 2028. Il aura alors 38 ans.
Tant que le plaisir est là, et si jamais le plaisir reste comme je suis actuellement, pourquoi je vais m'arrêter après 2024? Je vais continuer, j'ai envie, je suis content de me lever le matin, je suis content de faire judo. Donc voilà, tant que ça c'est là, je vois pas pourquoi je vais m'arrêter, je suis bien.
Vous avez assez faim pour aller aussi loin?
Je vais pas dire que j'ai la dalle, parce que ce mot est encore trop petit pour définir à quel point j'ai faim. Mais voilà, tant que ça c'est là, j'aime ce sport, j'aime mon sport et... il y a de belles années qui s'offrent encore devant moi.
Les confidences de Teddy Riner, affamé, donc on l'a compris, au micro RTL de Jean-Michel Rascol.
Une pause et dans un instant, notre première question du jour. La France est-elle en train de changer de climat? C'est vrai qu'il fait un temps magnifique, notamment dans l'Ouest, sur une séquence assez longue, avec des températures très élevées. A tout de suite.
RTL Midi. RTL Midi avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
Le spectacle est saisissant. Le niveau du lac a baissé de près de 9 mètres. Et il faut marcher presque 100 mètres dans les galets pour enfin atteindre l'eau. Amélie, une touriste, a du mal à y croire.
Ah oui, c'est impressionnant. Même ma mère qui connaît l'endroit, elle m'a dit mais là où vous êtes, normalement c'est rempli d'eau.
Donc là théoriquement on devrait être sous l'eau.
Oui, complètement.
Le plus grand lac artificiel de France, quasi à sec, au plus bas en tout cas. Une météo estivale sur toute la côte atlantique depuis plusieurs jours et les températures records dans le sud-est. La France est-elle en train de changer de climat? C'est le débat du jour sur RTL Midi. Avec nous, Samuel Morin, bonjour.
Bonjour.
Directeur du Centre national de recherche météorologique à Météo France. Et Alain Dupuis, bonjour. Vous êtes, vous, professeur d'hydrogéologie à l'Institut Polytechnique de Bordeaux. Samuel Morin, d'abord, est-ce que les conditions météo qu'on connaît actuellement, et ce d'ailleurs depuis plusieurs semaines, sont particulièrement exceptionnelles?
En fait, elles sont révélatrices du changement en cours depuis plusieurs décennies, des conditions climatiques qui touchent le territoire national et qui se traduisent par des situations de plus en plus fréquentes de vagues de chaleur, de canicules. Et quelque part, c'est un exemple de situations qui se reproduisent de plus en plus souvent et que l'on s'apprête à vivre de plus en plus souvent à l'avenir.
Alain Dupuis, on entendait à l'instant le reportage, un extrait du reportage de Serge Puyot sur le lac de Serre-Ponçon dans les Hautes-Alpes, au plus bas donc. Il y a des dizaines de départements en alerte sécheresse, la Manche depuis ce matin, c'est vraiment critique?
Oui, c'est critique, puisqu'en plus, ça a été très bien dit, l'augmentation des fréquences de ces événements on est en train de vivre. Et puis en plus, on a aussi une situation conjoncturelle. On a eu une fin d'automne dernier sec, un hiver doux et sec, et un printemps qui lui aussi est doux et sec, et avec des manteaux neigeux, pour parler de Serre-Ponçon, qui était quasiment... il n'y a plus de stock, en fait, disponible. Du coup, on a des niveaux de lacs très très bas.
L'Ouest, puisqu'on parlait de l'Ouest tout à l'heure, on est surpris de la séquence et de la longueur de la séquence. Elle a commencé il y a quelques jours et on est sur 15 jours, 20 jours, pas un nuage, du soleil tout le temps et des températures quasiment de 30 degrés. Monsieur Morin, est-ce que cela, c'est exceptionnel?
Des situations anticycloniques durables ne sont pas en soi particulièrement exceptionnelles. Ce qui rend la situation particulièrement exceptionnelle, c'est la combinaison de ces événements avec, comme ça vient d'être rappelé, des conditions sèches, de faibles précipitations depuis plusieurs mois, et puis des circonstances dans lesquelles, maintenant, quasiment n'importe quelle situation anticyclonique qui, par le passé, était un épisode plaisant du point de vue des conditions météorologiques rencontrées, peut se transformer en situation caniculaire extrêmement dangereuse, puisqu'il est de plus en plus facile de dépasser des seuils critiques de température à cause du réchauffement climatique liées aux émissions de gaz à effet de serre.
Justement, on nous annonce une probable nouvelle vague de chaleur la semaine prochaine, vous nous le confirmez ou...
Aujourd'hui, c'est encore à préciser, mais on s'attend à une montée en température dans les prochains jours et on s'attend à un épisode de vagues de chaleur intenses, dont la durée est encore à préciser, à partir de la moitié de la semaine prochaine, en particulier à partir du 14 juillet.
Caniculaire ou chaud ?
Ce vers quoi on s'oriente à ce jour, et puis on a encore quasiment une semaine d'anticipation, mais c'est un événement intense, plus ou moins durable, qui touchera particulièrement le sud de la France et dont on affinera dans les prochains jours à quel point il pourra toucher d'autres parties du territoire.
Alors, si on voulait conclure la question que nous posons, la France est-elle en train de changer de climat ? Lorsqu'on était enfant, on nous disait que la France est dans un climat tempéré. Est-ce que vous diriez aujourd'hui la même chose ?
Tempéré, ça dépend par rapport à quoi. Le climat en France est caractérisé par une alternance de saisons. On a un hiver qui est généralement assez doux. À haute altitude, on a encore la plupart du temps de la neige, même si certains hivers sont particulièrement peu enneigés. On a cette alternance de conditions, contrairement aux régions tropicales, où on a des hivers relativement frais et des étés plus chauds, avec des saisons intermédiaires. Donc on continue d'avoir ce climat tempéré caractérisé par une alternance de conditions météorologiques au cours de l'année, mais un décalage de plus en plus vers des conditions de plus en plus chaudes. On a de plus en plus de situations qui se présentent et qui sont la conséquence directe du changement climatique. On a aussi de moins en moins souvent de vagues de froid, même si ça peut arriver de temps en temps.
Alain Dupuis, on a bien compris que ça n'allait pas forcément s'arranger. Qu'est-ce qu'on peut faire au-delà de lutter, bien sûr, contre le changement climatique ? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour essayer de limiter cette sécheresse ? C'est possible d'ailleurs ou pas ?
Ça va être difficilement possible parce qu'on quand même on subit un héritage, on va dire, de la saison précédente, et là on a des niveaux de sécheresse dans les sols qui sont remarquables, hein. La partie ouest et le sud-ouest est encore un peu préservé en termes de sécheresse et d'humidité dans les sols. Par contre, tout le reste de la France est très très marqué suite à cet hiver doux et chaud. Et on va tendre vers des sécheresses qui, comme ça a été dit, de plus en plus difficiles à contenir parce qu'on aura moins d'eau à disposition. Donc une des recommandations est d'être économe dans nos consommations en eau.
Mais à moyen terme, on peut essayer d'inverser les choses, enfin, ou en tout cas limiter les dégâts.
Alors limiter les dégâts, oui, c'est de l'adaptation. Après, il y a bien sûr, il faut faire de l'atténuation. Hein, le changement climatique, il faut essayer de le contraindre du mieux possible en limitant les émissions de gaz à effet de serre. Et puis ensuite, on va devoir s'adapter. On va s'adapter par des pratiques culturales différentes, des technologies d'irrigation là aussi améliorées, plus contrôlées. On va mieux consommer l'eau, on va moins en consommer. Tout ça fait partie de ces de cette ingénierie d'adaptation qu'il va falloir mettre en œuvre et de manière très très rapide.
Samuel Morin, qui est directeur du Centre national de recherche météorologique à Météo France, je le rappelle. Est-ce qu'on a une statistique précise ? Vous parliez de réchauffement climatique en France. Est-ce qu'on a une statistique précise sur 50 ans de l'augmentation en moyenne durant l'été d'une ville comme Paris, comme Marseille ou comme Bordeaux ?
À l'échelle du pays, la température moyenne a augmenté d'un degré 7 depuis le début du XXe siècle. Donc ça, c'est la température moyenne et qui, effectivement, a des variations spatiales et des variations saisonnières. Les étés se réchauffent davantage que le reste des saisons. On a une certaine asymétrie. En fait, l'été se réchauffe plus que l'hiver sous nos latitudes. Et ça veut dire que le réchauffement tel qu'il est constaté dans les villes que vous avez citées, eh bien, il est de l'ordre depuis le début du XXe siècle. Et principalement ces dernières décennies, d'ailleurs, le réchauffement s'est beaucoup accéléré depuis les années 70.
C'est-à-dire qu'à Paris, il fait plus chaud dans la période 70-2022 que durant la période 1920-1970.
Absolument.
1,7 degré en moyenne.
L'augmentation en moyenne sur la France, c'est 1,7 degré. Après, il y a des variations locales, mais c'est des augmentations de l'ordre de 1 degré à 2 degrés spatialement réparties sur le territoire.
Bah écoutez, merci messieurs Morin et Dupuis. Le paradoxe, c'est que les gens qui nous écoutent sont peut-être très heureux finalement du temps qu'il fait et je le rappelle dans l'Ouest notamment, mais que les conséquences peuvent être effectivement dramatiques, en tout cas néfastes pour l'agriculture notamment. Il est 12h50, nous allons parler du Tour de France comme tous les jours dans une seconde.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
Tour de France 2022.
RTL, chez vous.
Christophe Paco.
Bonjour Christophe.
Bonjour Amandine. Bonjour Pascal. Bonjour à tous.
RTL chez vous en Belgique aujourd'hui sur les terres du plus grand cycliste de tous les temps.
Eddy Merckx.
Oui, rencontre ce midi à Binche avec un monument, une légende ici, quintuple vainqueur du Tour de France. Le grand Eddy Merckx, vous l'avez dit, son regard sur le Tour, sa fierté de voir les coureurs belges aux avant-postes. Sans oublier, dans RTL chez vous comme tous les jours, le coup de cœur de Laurent Jalabert, le point étape avec nos confrères du Parisien aujourd'hui en France, les métiers du Tour et les supporters ici à fond en Belgique. RTL chez vous, c'est parti.
RTL chez vous, Christophe Pacaud.
Bonjour monsieur Eddy Merckx.
Bonjour.
C'est le Tour de la Belgique, c'est plus le Tour de France, des maillots jaunes, des victoires d'étape, et vous?
Que voulez-vous, c'est le début du Tour, et puis les Belges sont vraiment forts cette année-ci au départ. Bon, j'espère qu'ils seront forts à Paris, mais en tout cas, les Belges, ils ont démontré dans ce début de Tour.
Ça vous rend heureux?
Absolument, très heureux, et surtout encore un départ ici en Belgique, on en est très fiers.
Oui, et très heureux, on l'imagine, de voir ici Wout van Aert avec son beau maillot jaune, Eddy.
C'est un champion d'exception, hein. Bon, malheureusement, je ne pense pas qu'il puisse gagner le Tour de France, mais en tout cas, c'est un grand champion.
Il vous plaît ce Tour de France?
Oui, absolument. Je pense que au début, on a vu le monte au Danemark. Bon, la course n'était peut-être pas ce qu'elle on avait attendu, mais puis après, on a quand même vu des sprints royaux. Et puis hier, une étape quand même extraordinaire sous les pavés avec la Pogacar quand même qui était là devant. Et Van Aert qui a fait du travail énorme pour Vingegaard.
Il vous impressionne Pogacar parce que c'est déjà deux succès, peut-être trois. Il va vous rattraper.
Oh, ben ça m'est égal. Vous savez, s'il y avait une rente, je dirais, mais j'ai aucun problème.
Merci à vous. Eddy Merckx, le plus grand champion de tous les temps.
Tour de France 2022. RTL, chez vous.
Victoire d'étape, maillot jaune. La Belgique brille de mille feux en ce début de Tour. Nicolas Georgerot est allé à la rencontre des supporters belges. C'est plus le Tour de France ici, c'est le Tour de Belgique.
Bah, une belle équipe anti-Gobert, régionale de l'étape. Donc ils sont chez eux ici. Et c'est vrai que Wout van Aert est toujours impressionnant dans tous les tours qu'il fait. Donc fier d'être belge et fier d'avoir de beaux représentants au Tour de France.
Mais vous n'avez pas gagné le Tour de France depuis un moment quand même, hein? 76, Van Impe.
Exactement, mais on s'en souvient encore. Donc c'est que ça a marqué, donc ça viendra, il suffit d'attendre un petit peu.
Le Wout van Aert va aller jusqu'au bout avec le maillot jaune pour revigorer la victoire belge, quoi.
Et c'est peut-être même un peu dommage qu'il soit dans une équipe avec deux autres leaders, hein. On aimerait bien peut-être le voir lui en leader d'une équipe et voir ce que ça peut donner. Il fera le job, hein. Je crois qu'il l'a déjà montré, même si hier ça a été un peu plus compliqué. Vive la Belgique, hein. Et vive le Tour.
RTL chez vous.
Les métiers du Tour. Bonjour Henri Thérault.
Bonjour Christophe.
Vous travaillez pour Orange qui relie le monde entier jusqu'à nos auditeurs finalement, hein, parce que c'est vrai qu'il faut aller au Danemark, il faut faire la France, la Belgique et la Suisse. C'est compliqué pour vous cette année?
On traverse trois pays, on alimente la course avec des fibres optiques qui passent par la Suède, qui passent par l'Allemagne, qui passent par la Belgique et vers la France, et on joue à domicile.
On grimpe plus au poteau téléphonique finalement, et on tire pas des longs câbles sous la mer?
Alors maintenant 80% des câbles qui alimentent cette zone, notamment pour les télés et les radios, sont des fibres optiques.
On est loin de la cabine téléphonique comme il y a quelques années, hein.
Alors c'est vrai qu'on est loin et que le Tour est de plus en plus gourmand au niveau capacité et donc au niveau réseau, sans oublier également les réseaux mobiles. On équipe les villes du Tour de France et on essaye également d'équiper les parcours. Ça veut dire que dans les 960 communes traversées, on augmente la capacité des réseaux mobiles qu'on laisse, bien sûr.
Le plus complexe à gérer pour vous aujourd'hui, pour le commun des mortels qui vient sur le Tour de France, c'est d'avoir son réseau 4G quoi, quelque part, parce que tout le monde le consomme.
Alors on a besoin de montrer qu'on est là pour dire sur une étape l'an dernier, une étape de montagne, on a eu plus de 900 000 connexions en moins de 10 minutes. C'est plus que sur les Champs-Élysées lors d'un défilé du 14 juillet.
Henri Thérault, du service Orange. Merci, bonne journée.
Merci.
RTL, chez vous, Christophe Pacaud.
Et comme tous les jours, avec nos confrères du Parisien, aujourd'hui en France, le point étape. Bonjour Christophe Béra.
Bonjour Christophe.
On la tient, cette étape référence. Il y avait de tout, de l'image, du son, du bruit.
Exactement, je suis très très heureux aujourd'hui parce que enfin hier, le Tour a vraiment démarré. Parce que bon, le vent au Danemark nous a joué des tours. Les coureurs n'avaient pas franchement envie de se montrer avant, mais là on ne peut rien faire contre les pavés. Enfin, on a eu cette étape. On va peut-être pas aller jusqu'à la légende, on va pas convoquer la légende, mais on va convoquer le stress, on va convoquer la tension, on va convoquer la malchance, on va convoquer l'exploit, oui, de Tadej Pogacar qui a été un des rares, peut-être le leader qui a tenu son rang parce qu'il s'est montré seul, sans équipier, le plus fort. Il a roulé intelligemment. et on a eu cette espèce de langue de poussière qui accompagnait, qui faisait peut-être des belles images, mais à l'intérieur, quelle tension, quel stress, quelle panique, quel bonheur pour nous. Enfin, le tour est parti et on a nos petits Français, ils sont toujours là. Oui. David Godu, il s'en est sorti sans bobo. Romain Bardet, personne n'en parle. Romain Bardet, officiellement, il joue les étapes. On en reparlera. Romain Bardet, je ne l'ai jamais vu aussi serein, aussi planqué, aussi tranquille. Et on a Thibaut Pinot aussi qui est là dans un coin. Je le répète, quel bonheur.
Christophe Bérard, bonne journée à vous, Christophe.
À bientôt.
Tour de France 2022. RTL, chez vous.
Le coup de cœur du jour, Laurent Jalabert, bonjour.
Bonjour.
Vous avez choisi le maillot à pois.
Ah, je suis impressionné par ce que fait ce garçon. Alors, bien sûr, sur les étapes à Danois, on comprend pourquoi il part dans les échappées pour aller être le Danois le plus populaire de cette grande boucle. Il a bien raison de le faire. En plus, il va chercher les points dans la montagne et ce maillot blanc pour rouge, il est bien vissé sur ses épaules. Mais dans cette étape des pavés hier, il n'y avait vraiment rien à gratter. Pas une côte à l'horizon, pas un point en vue et il attaque encore. Donc, moi, des efforts comme ça qui semblent gratuits, ça m'impressionne. Et je suis très admiratif parce que ce garçon-là, c'est de la dynamite, quoi. Il a pris le tour par les cornes, pas le taureau, il a pris le tour par les cornes et il y va la tête baissée. Ça me plaît.
Magnus Cort Nielsen, retenez bien son nom. Il vous plaît, Laurent Jalabert. Combien de kilomètres en tête depuis le début?
Alors, 551 km d'échappée depuis le départ de ce Tour de France. Pas mal quand même. Ce sera dur à battre.
Merci Laurent. Voilà Pascal. Voilà Amandine. On se retrouve ce soir, comme le veut la tradition, 18h30, 19h, en duplex de Longwy pour le Club Jalabert.
Et on sera fidèle au rendez-vous. Merci beaucoup Christophe. Prochain point d'étape sur l'étape du jour. Ce sera 13h30 avec Nicolas Georgerot.
RTL, chez vous.